C'est avec plaisir que je vous retrouve comme chaque mercredi à 21h sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Notre émission s'organisera ce soir en deux parties. Dans une première bonne demi-heure, je vous propose un entretien avec l'écrivain Daniel Rondeau qui est actuellement ambassadeur de France auprès de l'UNESCO depuis 2008. Et en deuxième partie d'émission, ce sera l'occasion pour nous toutes et tous de faire connaissance avec Luc Mérandon, qui est l'auteur d'un roman intitulé « Les portes de Nazca », roman disponible aux éditions Les Deux Encres. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous glisser quelques informations sur Daniel Rondeau. Daniel Rondeau est né en 1948, il est l'auteur d'une œuvre importante publiée chez Grasset. On citera notamment « Dans la marche du temps »,« Les vignes de Berlin » ou encore « L'enthousiasme ». Il a également publié plusieurs portraits de villes méditerranéennes et on mentionnera, cela est très important, qu'il a reçu en 1998 le Grand Prix Paul Morand de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Ce soir, il évoque son dernier ouvrage consacré à Malte, où il fut en poste comme ambassadeur de France, Malta à Nina, qu'il faut traduire par « Malte la généreuse », un essai sur Malte, la catholique, la sémitique, nombrile de la mer, entre Sicile et Libye, entre Orient et Occident. Pour ouvrir l'entretien, j'ai demandé à Daniel Rondeau de revenir sur un des thèmes qui lui est cher, à savoir que toute vie est un pèlerinage.
Oui, je pense que tout homme erre d'abord à la surface de la terre, on est jeté sur cette terre par des voies mystérieuses, et que tout homme va errer dans sa propre vie, dans sa propre foi, s'il est croyant, et que c'est une expérience unique qui nous est donnée, que ce passage sur la terre. C'est vrai que moi, j'ai découvert, j'ai découvert le monde dans un village de Champagne. Mon grand-père était un très modeste vigneron de Champagne, mes parents étaient instituteurs, et si vous voulez, j'ai toujours aimé ce petit village où j'étais né, puis le village de mes grands-parents, et ce village était pour moi comme une métaphore du monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le village natal est une prison, et ce que je peux comprendre, parce qu'ils se sentent enfermés, à l'étroit, et pour moi, c'est le village natal, c'est l'endroit par lequel je suis rentré en relation avec des horizons lointains.
Vous avez parlé de la croyance, vous dites que vous êtes un catholique errant.
Oui, mais bon, je continue sur cette métaphore du pèlerinage et de l'errance et du vagabondage.
Mais on peut avoir été maoïste et être un catholique revendiqué, quand bien même on est dans l'errance.
Oui, bien sûr, je vois pas...
je vous taquine un peu.
J'étais maoïste quand j'avais 20 ans, j'ai eu 20 ans 68, j'ai naturellement épousé la générosité et l'envie de changer le monde qui était celui de cette époque. Si je réfléchis à cette jeunesse, naturellement, je n'ai plus aucune des idées que j'avais à ce moment-là. Je pense que ces idées étaient nocives. Mais en revanche, j'espère être resté fidèle à la générosité et à l'enthousiasme.
C'est un mot important, l'enthousiasme.
C'est très important.
Au sens étymologique,
oui.
Entheos.
Oui, entheos. Bon.
Alors, je garde l'image du pèlerin, parce que finalement, à Malte, vous l'écrivez dans votre livre, c'est pas vous qui le dites, mais c'est un des personnages maltais qui vous le dit avec bonheur, c'est que jamais on n'avait autant porté haut la culture française grâce à vous, à votre présence sur Malte.
Oui, pas uniquement la culture, c'est-à-dire l'influence française au sens large, si vous voulez. Moi, j'ai eu l'honneur d'être nommé ambassadeur. Je n'ai jamais demandé à être ambassadeur. J'ai consacré toute ma vie aux livres, à mes propres livres, à part cette parenthèse rouge de ma jeunesse, toute ma vie aux livres. Les miens, oui, mais ça, c'est autre chose. Et puis, aux livres des autres, en tant que journaliste et en tant qu'éditeur. Donc, j'ai une passion qui m'habite qui structure ma vie, c'est l'écriture. Il se trouve que j'ai reçu un jour, je me suis enfermé en Champagne pendant 10 ans pour écrire, dans une solitude vraiment totale, sans vie sociale. Enfin bon, je vivais avec ma femme, naturellement, qui faisait des allers-retours tous les jours pour Paris. Mais autrement, j'avais vraiment coupé tous les ponts. Et j'avais publié, travaillé pendant 7 ans sur un énorme roman qui s'appelait « Dans la marche du temps ». J'avais publié un petit livre sur Carthage, continuais mon pèlerinage méditerranéen. Et un matin, je prends ma voiture pour aller à Paris. C'est un jeudi matin, c'est l'hiver, au mois de février, il fait froid. La route est gelée, verglacée, dans la forêt champenoise. Je reçois un coup de fil du ministre des Affaires, d'une dame qui me dit « Est-ce que je peux vous passer le ministre des Affaires étrangères ?» Et je lui ai répondu « Why not ?» Pourquoi pas ? Je l'ai entendu sourire dans le téléphone. Elle m'a passé le ministre des Affaires étrangères, qui était Bernard Kouchner. Et Bernard Kouchner m'a dit « Tu vas bien ? Oui, très bien. Et toi, très bien. Est-ce que tu sais que tu vas être ambassadeur ?» Donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est vraiment un cadeau. Cet honneur m'a été confié sans que je l'ai réclamé. Et à un moment où je pouvais l'exercer, puisque j'étais entre deux livres. Donc je me suis dit qu'il fallait que je sois à la hauteur de cet honneur. Et le premier poste qui s'est libéré, c'était Mal. Bernard Kouchner m'a dit, on va te donner ne prends pas Mal, c'est un petit poste, on va te donner un grand poste. Je lui ai dit, mais tu plaisantes. Ça fait 25 ans que je voyage autour de la Méditerranée. J'écris sur Tanger, sur les trois portes de la Méditerranée, sur Tanger, sur Alexandrie, sur Istanbul. J'écris sur la cité morte. Carthage, j'ai écrit sur le Liban à l'époque où c'était les premières prémices du mouvement arabe en 88-89.
Beyrouth, oui.
Oui, à Beyrouth. Donc
autant,
j'ai écrit.
Oui, de la part des chrétiens que des musulmans.
Autant, bien sûr, exactement.
Plus de liberté.
Oui. Et j'ai écrit sur Albert Camus. J'ai dit c'est un cadeau royal et je vais montrer à la hauteur.
Si vous le permettez, Daniel Rondeau, nous allons marquer un premier temps de pause et on se retrouve dans quelques minutes après ce morceau d'Enya. Je rappelle que vous écoutez Wagon Livre, votre émission littéraire. C'est chaque mercredi à 21h sur le 90.5 Radion ou alors via internet sur le www.radion.com. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Daniel Rondeau. Thank you.
Daniel Rondeau, abordons à Malte, île mystérieuse, un rocher en Méditerranée, et vous dites dans votre essai, Malta Anina, je vous cite, « Terre minuscule où l'Europe, et singulièrement la France, l'Afrique, l'Orient, se sont rencontrés. » Pourquoi Malte a-t-elle été à la confluence de ces rencontres de différentes civilisations? Alors, l'histoire, bien sûr.
L'historien Fernand Braudel est venu animer, diriger, présider un colloque d'historiens méditerranéens à Malte, à Pâques 1972. Et il a ouvert ce colloque en disant « Malte, l'île la plus accueillante, la plus hospitalière de Méditerranée, c'est un morceau d'Afrique, c'est une terre d'Europe, elle est à la fois d'Orient et d'Occident. » Naturellement, vous parlez d'histoire, il faut aussi parler de géographie. C'est souvent la géographie qui nous assigne un rôle dans l'histoire. Et il se trouve que la situation géographique de Malte lui a façonné son destin. Puisque à Malte, nous sommes à égale distance au cœur des eaux, vraiment au cœur des eaux méditerranéennes. On est à égale distance de Barcelone et de Beyrouth, dans un sens. Dans l'autre sens, on est entre la Sicile et l'Italie et le rivage africain, la Libye et la Tunisie. Donc ce qui fait que tous les voyageurs un peu audacieux, dès le moment où l'homme va commencer à naviguer, et les navigateurs audacieux qui vont essayer de franchir la mer par le milieu, en s'écartant des côtes, vont arriver un jour ou l'autre à Malte. Donc il y a eu une première occupation humaine il y a peut-être 5000 ans ou 6000 ans. Il en reste des temples magnifiques, mystérieux. C'est pour ça que je dis que c'est aussi une île mystérieuse, puisqu'on n'a pas fini d'explorer les mystères de cette première civilisation. Et puis ensuite, nous avons eu les Phéniciens, qui sont venus avec des marchands juifs, 8e siècle, ça va être l'époque de la fondation de Carthage. Ensuite, il y aura les Grecs, il y aura les Romains, il y aura les Vandales, il y aura les Byzantins, il y aura les Normands, il y aura les Arabes, il y aura les Chevaliers de Malte, il y aura Bonaparte, il y aura les Anglais. Donc tout ça va... Tous ces gens vont passer, vont souvent aimer cette île, et cela donne comme résultat une île qui est à la fois profondément et toujours intensément catholique, mais avec une forte empreinte hébraïque, juive. Il y a très vieilles tombes juives, 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une sorte de fantasme juif dans Malte. Beaucoup de noms sont des noms juifs. Et enfin, la langue maltaise est une langue sémitique, mais de tradition arabe. C'est une sorte d'arabe archaïque. Et à l'église, dans ces églises qui sont pleines, Dieu se nomme Allah.
Et on dit bonjour.
Alors, les Français ont laissé beaucoup de souvenirs, y compris, puisque là, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec les grands maîtres, 70% des chevaliers de Malte étaient des Français. La plupart des grands maîtres, en partant, étaient Français. Je pense notamment au premier, Villiers de l'Isle-Adam, celui qui est arrivé à Malte, celui qui a résisté pendant le Grand Siège, qui a résisté aux Ottomans, qui était Jean Parizeau de la Valette, et puis l'avant-dernier grand maître, qui était un réformateur, qui s'appelait Emmanuel de Rohan. Donc, tous ces Français, ça a été une présence, ça a été une île un peu française. C'était une île à la fois européenne, c'était l'Europe avant notre Europe d'aujourd'hui, puisqu'il y avait différentes nationalités qui étaient représentées dans l'ordre de Malte. Il y avait beaucoup de Français. Et il y a, de façon assez amusante, trois mots sont restés dans le vocabulaire courant des Maltais. Le premier, c'est quand même assez agréable de savoir que chaque Maltais qui se lève, qui sort de son lit, va saluer les gens qu'il rencontre par un mot français en disant « bonjour, bonjour ». Et de même, le soir, il dit « bonsoir ». Alors ça peut être, il y a des variantes, « bonjour alikoum », »,« bonjour tout le monde ». Donc vous voyez un mot arabe à côté. Et puis il y a un mot très important, pour moi champenois, mais pour vous aussi encore plus bourguignon, puisque vous en Champagne, nous n'utilisons pas cet instrument, qui est le tire-bouchon. Et il y a un mot maltais qui est tire-bouchon. Oui. Bonjour, bonsoir, tire-bouchon.
Alors vous nous avez montré l'importance de cette île au carrefour de différentes civilisations. Et finalement, ça nous rappelle que le rectangle, vous parlez du rectangle,
oui, rectangle bleu
de la Méditerranée, oui, cette gelée bleue, vous parlez de la mer comme d'une gelée bleue, c'est magnifique. Et finalement, Ulysse, à travers Homère, aurait peut-être été retenu prisonnier par la nymphe Calypso sur une île voisine de Malte, qui est l'île de Gozo.
Mais je vous signale que c'est retour au pèlerinage, parce qu'on est là dans une sorte de pèlerinage en Méditerranée. C'est Ulysse, c'est le premier pèlerin de la Méditerranée. C'est
presque un des premiers pirates, même.
Presque un des premiers pirates. Donc, il n'y a pas de grande certitude, mais quand même, dans les descriptions, certaines descriptions d'Homère, de cette île où il aurait rencontré Calypso, correspondent assez bien à l'île de Gozo, qui est une des petites îles, si vous voulez. Il y a la République maltaise est formée de trois îles, l'île de Malte, la Malte, comme on disait autrefois au XVIIe, au XVIIIe en français, l'île du Cumin, qui est devenue Comino, qui est un minuscule rocher absolument magnifique, où les gens vont se baigner pendant en été, et puis une île qui est restée assez sauvage, qui est une petite île qui s'appelle Gozo. Et c'est là que Ulysse aurait rencontré Calypso. Mais en tout cas, c'est surtout là que le commandant Cousteau a trouvé son bateau qu'il a appelé la Calypso.
Et vous dites aussi qu'un ancien président français y rencontrait clandestinement sa maîtresse italienne. On se demande bien de qui il peut s'agir.
Oui, cette petite île assez à l'écart du monde, elle l'est moins maintenant, mais elle est restée longtemps. Elle était aussi une île qui pouvait abriter des amours clandestines, dont celle notamment d'un président français qui était, semble-t-il, amoureux d'une actrice italienne, mais je ne connais pas son nom.
On retrouve Daniel Rondeau dans quelques minutes. Pour l'heure, place à la musique et à la chanson. Je vous propose d'écouter un titre de GL. Voici La douce habitude sur Radion.
C'est au pied de ton lit qu'elle attend ton réveil. Elle a passé la nuit à veiller ton sommeil. Tu te lèves, elle sourit et se love au creux de tes reins. Tu n'as rien senti, elle le fait chaque matin. C'est la douce habitude, la folle ritournelle, la tendre servitude qui te prend sous son aile. C'est la douce habitude, la bête apprivoisée, qui rend la solitude si facile à dompter. À dompter. Tout est morne et banal, aujourd'hui ressemble à hier. Éterne et normale, tout te semble ordinaire. Dans sa boîte à reliques, elle entasse les petits riens, les gestes mécaniques que tu fais au quotidien. C'est la douce habitude, la folle ritournelle, la tendre servitude qui te prend sous son aile. C'est la douce habitude, la bête apprivoisée, qui rend la solitude si facile à dompter. À dompter. C'est la trieuse automatique, la boîte à poules, la bête à tic. Les petites manies organisées, la politesse ou un café. Après l'amour, c'est le jogging au petit jour. C'est tu vois quoi, je veux dire, ça le fait. Bah, si tu veux en fait, comment dire. C'est la douce habitude, la folle ritournelle, la tendre servitude qui te prend sous son aile. C'est la douce habitude, la bête apprivoisée, qui rend la solitude si facile à dompter. C'est la douce habitude, la folle ritournelle, la tendre servitude qui te prend sous son aile. C'est la douce habitude, la bête apprivoisée, qui rend la solitude si facile. Adompté.
À l'instant, c'était GL et la douce habitude. La douce habitude de celles et ceux qui aiment la littérature, c'est de se brancher sur le 90.5 chaque mercredi à partir de 21h pour suivre Wagon Livre. Sans plus tarder, la suite de l'entretien avec Daniel Rondeau, l'écrivain qui est actuellement ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, a aussi été, il y a quelques années, ambassadeur de France à Malte. Et suite à ce séjour sur le rocher maltais, il a donc écrit « Malta à Nina » aux éditions Grasset et il nous explique combien cette île superbe et généreuse. Et il évoque un animal qu'il avait coutume de remarquer dans les jardins de l'ambassade de France, un caméléon.
C'est assez surprenant, c'est magnifique de voir évoluer le caméléon. Et on ne le voyait pas souvent, il se cache. Il se cache, mais en fait, on ne le voit pas. Vraiment, puisqu'il change de couleur selon l'endroit où il est posé. Et j'avais toujours peur que les chats qui venaient rôder dans le jardin, qui aiment bien s'amuser avec les lézards, dévorent tous nos caméléons. En fait, je crois que les caméléons sont là depuis longtemps et qu'ils vont résister aux chats.
Vous racontez en fait que c'est un père jésuite qui aurait introduit le caméléon
oui,
sur l'île de
Malte. Oui, c'est à peu près prouvé ça. C'est...
Vous avez vu des dauphins, forcément ?
Oui, j'ai vu des dauphins. Si vous voulez, la mer est incroyablement... Ce que je veux dire, c'est que les eaux, la Méditerranée autour de Malte, ont gardé une pureté assez miraculeuse. Et il y a des endroits, notamment un petit endroit où j'avais pris l'habitude d'aller me baigner, qui était loin des circuits touristiques, qui s'appelle Garlapsi, qui est un endroit sur le sud de l'île. Enchâssé dans des falaises, ça forme une sorte de piscine naturelle en pleine mer, et qui n'était fréquentée que par quelques Maltais. C'était un petit endroit où une crique d'où partaient des pêcheurs. J'étais devenu l'ami de ces pêcheurs et les gens restent dans l'eau, surtout en été, ils barbotent pendant des heures puisque la chaleur est assez accablante. Et là, les eaux sont de... Je pense que c'est un endroit comme on en voit peu aujourd'hui en Méditerranée. Et là, il suffit d'ouvrir les yeux sous l'eau et on voit énormément de poissons. Je me souviens être allé sur l'île de Filfla qui est juste à côté, juste en face de cet endroit. J'étais parti sur un petit bateau à moteur et en barbotant, quoi, sans matériel de plongeur professionnel, on voit énormément de poissons. Alors il y a naturellement les thons qui passent.
Racontez la matanza, oui. C'est-à-dire la pêche au thon qui est quand même, un joyeux génocide.
C'est une pratique ancienne, qui est devenue plus industrielle, mais... Qui a participé, qui était très importante en Sicile et à Malte. Donc il y a les thons, mais il y a aussi des dauphins qui passent, il y a des requins, il y a des tortues de mer, il y a des poulpes géants. Enfin bon, voilà, on est
Malte généreuse, quoi.
Oui, Malte la généreuse, Hanina, c'est ce que en maltais, Hanina veut dire généreux, doux. Malte la douce, la généreuse. En tout cas, c'est une île qui a été généreuse pour moi, puisque, si vous voulez, comme je le disais, j'ai beaucoup écrit sur la Méditerranée sans jamais pouvoir poser mon sac. Donc c'était pour moi une sorte de rêve, et je pensais que je ne réaliserais jamais. Vous voyez, je rentrais chez moi en Champagne, je voyageais, je prenais des notes, je faisais des voyages, je publiais mes livres, mais je me disais, je ne verrais jamais tourner les saisons sur un rivage méditerranéen. Et il se trouve que Malte m'a vraiment accueilli avec beaucoup de générosité comme ambassadeur, mais aussi comme français, comme écrivain et comme homme. Malte m'a fait rentrer dans la confidence d'une vieille civilisation méditerranéenne, vieille civilisation de pêcheurs, de corsaires, de commerçant méditerranéen, donc cela m'a aidé à comprendre beaucoup mieux la vie en Méditerranée. Et d'une certaine façon, Malte m'a délivré de cette obsession que j'avais toujours, de ce fantasme d'aller quelque part. J'ai vu fleurir 4 fois les orangers, et c'est une satisfaction énorme de penser que voilà, je commence à connaître vraiment un peu la Méditerranée.
Ce chapitre, le manège des saisons,
oui,
qui est très très beau.
Donc, non, mais c'est moi, je suis un lecteur. Bon, je suis un homme du Nord, champenois, mais j'ai découvert le Sud par les livres, par Giono, quand j'étais enfant. J'avais une dizaine d'années, j'ai découvert la Provence. Et puis 2 ou 3 ans plus tard, quand je suis arrivé au lycée de Chalon-sur-Marne, j'ai traversé la mer en lisant Camus. Et c'est vrai que Camus raconte aussi, il y a des textes éblouissants de force et de poésie d'Albert Camus, sur la vie des gens du pied noir et des Algériens sur ce rivage. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses qui sont semblables. Cette fascination de ce peuple pour la mer, pour l'été, pour la nuit, pour les feux. Chaque soir en été, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, on voit des familles entières qui viennent s'installer tout autour du rivage, sur les falaises, ou sur les quais des ports, ou sur le sable des plages qui ne sont pas très nombreuses. Ils font des grands feux, ils font des brochettes, ils boivent, ils ont des guitares, un accordéon, ils chantent. Tout ça en regardant la mer. Et bon, voilà, je trouve que c'est... Pour moi, j'ai beaucoup... c'est une image qui m'a beaucoup frappé... de voir cette communion du peuple maltais avec la mer qui l'entoure.
Alors, revenons un peu à l'histoire, parce que quand on évoque Malte, c'est aussi l'ordre de Malte, c'est l'histoire des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Finalement, les croisades, et c'est parce que les Européens, les catholiques sont chassés de Jérusalem par les Ottomans, qu'ils vont d'abord sur l'île de Rhodes et ensuite sur Malte. Ah, j'ai trop raccourci.
Un petit peu. C'est ça, l'idée, c'est ça, mais non. L'ordre de Malte est un ordre qui est fondé au XIe siècle. C'est un ordre hospitalier militaire dont la vocation est à la fois de soigner les malades et les blessés qui sont nombreux sur le chemin des croisades, parce que et d'autre part, de les protéger. Il faut imaginer ce qu'ont été les croisades. Nous avons beaucoup de mal à l'imaginer aujourd'hui, puisque nous portons un jugement rétrospectif très négatif sur ce mouvement. En fait, ça a été un soulèvement spirituel d'Européens pauvres et riches. Mais quand je dis les pauvres, c'était aussi les mendiants, les va-nu-pieds qui voulaient aller sur le tombeau du Christ. Donc, pèlerinage encore.
Exact.
Et naturellement, ces gens arrivaient en Orient, tombaient malades comme des mouches. Parce qu'il y avait des fièvres, il y avait une forte chaleur, ils buvaient des eaux croupies, donc il a fallu les protéger. Et cet ordre, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les a accueillis dans ses hôpitaux et les a protégés militairement. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem a, lui, subi de nombreux revers militaires et a été chassé par l'islam, qui voulait les repousser loin de ce rivage oriental. Et l'ordre de Saint-Jean, l'histoire de l'ordre de Saint-Jean, c'est une sorte de croisade à l'envers. Ils quittent Jérusalem, ils vont aller vers le nord, puis ils vont arriver à Chypre, puis enfin ils vont arriver à Rhodes, où ils vont rester plusieurs siècles à Rhodes, d'où ils vont être expulsés par le sultan Soliman le Magnifique, qui était le sultan ottoman, qui venait de conquérir un peu, environ un siècle auparavant, Constantinople. donc qui devenait Istanbul. Et les Ottomans, notamment Soliman, voulaient contrôler la navigation en Méditerranée orientale, puisque c'est la route des épices. Donc celui qui contrôle la route des épices, il contrôle la richesse. Donc c'était vraiment un combat puissant et qui engageait des forces importantes pour ce contrôle de la Méditerranée. Et en 1523, le 1er janvier 1523, l'ordre de Malte, qui était dirigé à ce moment-là par un chevalier français, Villiers de l'Isle-Adam.
Un vieillard. 86 ans.
86 ans. Je crois qu'on l'appelait l'athlète du Christ, parce qu'il avait une force herculéenne. Après avoir résisté pendant des mois, va être chassé. Les Ottomans, d'ailleurs, vont saluer son courage en lui rendant les honneurs. Et il va partir sur des navires, embarquant avec le petit millier de chevaliers qui étaient là, 5000 Rhodiens qui ne veulent pas rester et qui ne veulent pas se convertir à la religion musulmane. Et ils vont embarquer leurs armes, c'est-à-dire, il faut imaginer, des armes entassées dans les caves des châteaux depuis les croisades. Ils vont embarquer leurs archives, ils vont embarquer leurs trésors, et ils vont embarquer leurs icônes. Donc, ils vont, à partir de là, ils partent le 1er janvier 1523, et ils sont tout de suite rattrapés par une tempête. Ils vont errer pendant 7 ans en Méditerranée sans point de chute. Ils ne savent pas où aller.
Un peu comme Ulysse et ses compagnons, finalement.
Un peu comme Ulysse. Non, mais c'est très beau, ces répétitions de navigation méditerranéenne. Moi, je trouve ça bouleversant de voir comment les choses se répètent, recommencent, et que chacun, justement, dans ce pèlerinage de vie humaine, rencontre les mêmes obstacles, les mêmes tempêtes, les mêmes écueils, les mêmes rochers, et parfois les mêmes... rivage hospitalier. Donc,
pendant 7 ans, c'est l'errance.
7 ans, c'est l'errance. Et ils vont, Charles Quint, finalement, va les délivrer de cette errance en leur donnant le rocher de Malte.
En échange,
ils ont une obligation, c'est pour la Toussaint, chaque année, lui offrir un faucon maltais. Et ils paieront leur tribu naturellement très fidèlement au roi d'Espagne et à Charles Quint puis à ses successeurs. Ils le paieront aussi au roi français. Parce que comme il y a beaucoup de grands maîtres qui sont français, donc les rois de France auront aussi leur faucon maltais en cadeau.
Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale, Radion 90.5. Ce soir, nous vous faisons découvrir l'île de Malte avec Daniel Rondeau, auteur d'un essai « Malta à Nina » paru aux éditions Grasset. On se retrouve dans quelques minutes. Excellente soirée en notre compagnie. Retour à bord de Wagon Livre, le rendez-vous littéraire de votre radio locale vous fait rêver un peu ce soir à travers une évocation de l'île de Malte, où notre invité Daniel Rondeau a longuement séjourné alors qu'il était ambassadeur de France sur le rocher maltais. Il faut aussi rappeler, Daniel Rondeau, qu'il y a eu une présence française sur Malte. Alors, peut-on la délimiter dans le temps, de quand à quand finalement?
De 1500.
30.
Quand ils arrivent en 30, de 1530, oui. L'ordre de Malte, et c'est un Français, Villiers de l'Isle-Adam, et ils seront chassés en 1798, c'est-à-dire il y a presque 3 siècles de présence de l'ordre de Malte. Et que, à l'intérieur de l'ordre de Malte, la présence française est fondamentale. Donc ça veut dire qu'il y a des noms. Beaucoup de toponymes, de noms de cités ou de noms de lieux,
de noms de rues,
rappellent le passage de ces chevaliers. Et puis après, il y a eu le passage en trompe de Bonaparte.
Mmh. Bon, lui, il séjourne 7 jours oui. sur Malte, mais enfin, il y apporte aussi un peu de révolution.
Il apporte la révolution, beaucoup de révolution. C'est un jeune homme, il a 29 ans. Il a décidé 2 ans avant, quand il était à Milan, qu'il aurait besoin de Malte pour garantir la sécurité de sa route vers l'Égypte. Il avait envoyé 2 espions. Et il va arriver, il va prendre l'île sans pratiquement sentir un coup de canon. Et il va se comporter de façon absolument géniale.
Il abolit le régime féodal.
C'est un administrateur, il faut imaginer, un jeune homme de 29 ans. C'est une sorte, Malte est pour lui, va être pour lui une sorte de brouillon de son règne à venir, de ses conquêtes à venir, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, puisque comme vous dites, il abolit l'esclavage.
Le régime féodal également.
Il abolit le régime féodal.
Liberté de culte pour les juifs.
Liberté de culte pour les juifs. Il passe un accord avec l'église maltaise. Il crée un journal en français, le premier journal maltais. Le journal de Malte, il crée une administration, comme il le fera partout. C'est un administrateur, c'est un homme qui a... Il va créer, on sait bien qu'il a créé l'administration française, qu'il va créer tout un certain nombre de grandes écoles. Mais déjà, à Malte, il fait ça, c'est son brouillon. Il va demander à ce qu'on identifie les meilleurs élèves des établissements d'enseignement maltais, parce qu'il veut les envoyer au lycée Louis-le-Grand. Vous voyez cette vision à la fois de dégager des cadres, des jeunes gens, les envoyer faire des études à Paris, d'organiser l'administration des communes, c'était ça. Bon, c'était un petit territoire. Bon, enfin, voilà, il va rester 5 jours et il va quitter ensuite, il va partir pour l'Égypte, pour la conquête de l'Égypte, laissant derrière lui une garnison assez forte. Deux hommes qui sont chargés d'administrer cette nouvelle province française.
Oui. Non.
Et malheureusement...
Malheureusement, les Anglais sont toujours là.
Mais malheureusement...
Malheureusement,
le Français, les deux généraux français qui l'avaient laissé, l'administration de l'île, ne va pas tenir les promesses de Bonaparte. Il va piller une église maltaise, alors que Bonaparte s'était engagé à respecter l'église maltaise. Et brusquement, une grande partie des cœurs qui étaient acquis à la France, aux idées révolutionnaires et à Bonaparte, vont se détourner et se soulever contre les troupes françaises. Et les Anglais vont venir les aider. Et puis ensuite, vont s'installer là pour 2 siècles.
Daniel Rondeau, on est obligé de raccourcir notre entretien. Je rappelle en tout cas, prolongement, et on peut approfondir l'histoire de Malte, notamment, vous parlez du bichon maltais aussi,
oui,
Johnny Hallyday, qui oublia le bichon maltais sous un banc dans un bar. Hein, oui. Johnny Hallyday, vous connaissez bien. Et on retrouve l'histoire de Malte, un vent de culture et d'histoire, dans votre essai « Malta Anina » chez Grasset. Monsieur l'ambassadeur auprès de l'UNESCO, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avoir eu devant le micro de Radion.
Non, j'étais très heureux de parler avec vous.
Merci Daniel Rondeau.
Merci.
Je rappelle que l'essai de Daniel Rondeau, Malta Anina, est disponible aux éditions Grasset. Chose promise, chose due, et comme je l'avais annoncé au début de notre émission, je vous invite cette fois-ci à faire connaissance avec Luc Mérandon. Il est l'auteur d'un roman intitulé « Les portes de Nazca » paru aux éditions Les Deux Ancres, et pour commencer notre entretien, je lui ai demandé de nous glisser quelques informations sur lui-même.
Eh bien donc, je suis un auteur tombé dans la littérature sur le tard. Hein. J'ai commencé à écrire à 50 ans passés, après une longue vie antérieure dans une entreprise publique. Et suite à un événement familial assez dramatique, je me suis retrouvé quelques longs mois inactif. Et du coup, je me suis lancé dans cette...
Aventure littéraire passionnante.
Passionnante, absolument. Et avec délectation, je dois dire, d'autant plus que j'ai repris un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, hein, les énigmes archéologiques sud-américaines.
Pré-incaïque.
De l'époque pré-incaïque. Et ma foi, donc j'ai pris du temps sur moi et je me suis rendu sur place pendant plusieurs mois pour concrétiser de manière efficace ce roman.
Alors c'était justement une de mes questions, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu au Chili notamment, où l'action du roman se passe essentiellement.
Oui, bien sûr, j'y suis allé donc entre 2008 et 2009, plusieurs fois, mais enfin la fois principale, j'y suis resté 5 mois. Et là, j'ai vraiment pu m'imprégner de la culture sud-américaine, de la gentillesse des gens, des couleurs, des odeurs.
De
la gastronomie, que j'ai essayé de retranscrire du mieux possible à travers ce roman.
Alors, si vous le voulez bien, parlons de l'intrigue de votre roman, dont je rappelle le titre, hein, « Les portes de Nazca ». C'est donc un roman de Luc Mérandon qui est devant notre micro et qui est paru aux éditions Les Deux Ancres et qui a reçu cette année le Grand Prix National du Lions Club. Hein.
Absolument.
Alors, le point de départ, c'est finalement une histoire, on pourrait dire presque familiale. Un couple et leur fille adoptive, Carole, Judith et Bertrand Després, donc, accompagnent leur nièce adoptée, Carole, au Chili. Parce que cette jeune fille a obtenu une bourse pour préparer un mémoire de master en sociologie dans une université prestigieuse qui est l'Universidad de Chile.
De Chile, c'est ça, à Santiago.
Très cher à Pablo Neruda.
Pablo Neruda, entre autres, oui.
Et alors, Bertrand Després, le père adoptif de la jeune Carole, bon, est océanographe dans une société franco-norvégienne qui s'appelle Ultramer. Et il se passe qu'au moment où ce couple et la jeune fille se trouvent donc à peine arrivés au Chili, il y a le naufrage d'un petit navire de pêcheurs, mais qui finalement est un naufrage qui va s'avérer mystérieux. Et là, Luc Mérandon, je vous laisse un petit peu donner quelques éléments de cette intrigue palpitante.
Merci. Oui, absolument. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques jours sur place, Bertrand, donc mon héros, qui s'intéresse à tout ce qui touche à la mer, va tomber par hasard, au hasard d'une lecture d'un journal local, sur un fait divers, a priori banal. Hein, un bateau de pêche a fait naufrage au large d'un archipel chilien et la marine a été dépêchée sur place. Enfin, un bâtiment de marine qui se trouvait à proximité, a été dépêché sur place pour sauver ces fameux pêcheurs. Et bien évidemment, ces pêcheurs sont sains et saufs, Dieu merci, et ils vont raconter que leur naufrage est dû à l'accroche de leur filet, de leur chalut, dans un éperon rocheux qui s'est trouvé cassé par cet accrochage. Et lorsqu'ils ont voulu, notamment le jeune apprenti, lorsqu'il a voulu aller voir au fond, voir s'il pouvait tirer quelque chose de ce bateau, a découvert que cet éperon rocheux, une fois cassé, laissait apparaître quelque chose d'étrange, d'inhabituel, pour des marins avertis, quelque chose qu'il n'avait jamais vu comme texture, comme roche et comme couleur. C'était absolument tout à fait inédit et évidemment, ils en ont parlé à leur sauveteur, notamment la marine chilienne, qui s'est un peu pris au jeu, on va dire, et qui sont allés voir eux-mêmes. Et de là, et va naître une énigme autour de cette fameuse roche étrange.
Qui intéresse beaucoup de monde.
Qui va intéresser beaucoup de monde, absolument.
Les sphères politique chilienne, la marine, tout le monde se sent très intéressé
va s'en mêler
à un banal accident de navire.
Tout simplement parce que d'une part notre ami Bertrand est très, comme je disais tout à l'heure, est très proche de son métier, est très intéressé par ce qui peut se passer dans l'eau et au fond de l'eau. Et d'autre part, cet événement, cet incident va remonter aux oreilles d'un amiral, d'un vieil amiral qui va se souvenir que lorsqu'il a commencé sa carrière de matelot, il avait entendu parler d'une histoire un peu étrange, une énigme qui circulait chez les vieux loups de mer, comme quoi justement à cet endroit-là, il se serait passé quelque chose ayant rapport avec une fameuse civilisation qui avait vécu 2000 ans plus tôt, un peu plus au nord, qui s'appelait les Nazcans.
Mais alors cette énigme, vous l'avez complètement inventée.
Ah, bien sûr, ce n'est aucun...
Non, mais vous auriez pu éventuellement aussi vous approprier quelques éléments, peut-être même totalement légendaires.
Bien sûr. Non, j'ai simplement rapproché, si vous voulez, l'énigme des fameuses lignes de Nazca, puisqu'on parle de Nazca.
Des formes géométriques.
Des formes, des figures animales, en fait, hein, ce que les Indiens pensaient être leur divinité, qui ont été gravées sur le sol et que l'on ne voit, de par leur taille gigantesque, que vue du ciel. Hein. Donc, j'ai simplement transposé cette histoire-là, j'ai voulu la relier à quelque chose qui aurait pu se passer, 2000 ans plus tôt. Et cette fameuse énigme, donc totalement inventée, comme vous le disiez, est arrivée aux oreilles de ce vieil amiral lorsqu'il était plus jeune, et il va faire un parallèle avec ça. Et il va se piquer au jeu, et il va engager des moyens là-dessus, et jusqu'à ce que sa hiérarchie l'apprenne, et que finalement il arrive à convaincre aussi que sa hiérarchie que peut-être il y a quelque chose à faire là-dessus.
En fait, cette énigme nous ramène 2500, presque un peu moins de 3000 ans avant notre époque.
C'est ça, absolument. Ça nous ramène à des temps immémoriaux, donc à l'époque à laquelle vivaient ces Indiens-là. Et bien évidemment, on va faire des voyages un petit peu intemporels, ou temporels plutôt, dans ce roman, entre les événements qui se passent de nos jours et d'autres événements qui se sont passés dans des dates plus ou moins anciennes.
Nos auditrices et auditeurs auront donc bien compris que ces portes de Nazca, titre du roman de Luc Mérandon, est sur le point de provoquer, vous, l'expression est de vous dans le roman, un tsunami scientifique.
Ben oui, parce que ça remet en cause tout un tas d'idées préconçues et tout ce que l'homme pouvait penser connaître de son histoire.
Alors, vous êtes quand même pas mal documenté en ce qui concerne les termes scientifiques, parce que, par exemple, vous utilisez des termes géologiques extrêmement précis, les roches balsamiques, les basaltes porphyriques, puis alors, quand vous détaillez l'équipement du Beaupré, qui est le navire océanographique qui va être mis à disposition de l'équipe de Bertrand Després, océanographe, alors là... vous êtes capable, je ne sais pas si vous inventez des références techniques. Non, pas du tout. Vous êtes documenté.
Comme je disais tout à l'heure, mon travail de recherche a duré 2 ans. Hein, donc j'ai vraiment fouillé. J'ai voulu être au plus près de la réalité possible. Hein, donc tous les termes que j'utilise sont des termes que les spécialistes ne contrediront pas. Ce sont des événements qui peuvent très bien se passer avec les techniques d'aujourd'hui. Maintenant, l'histoire, effectivement. Chacun peut penser ce qu'il s'y veut, mais en tout cas, tous les moyens mis en œuvre, tous les termes utilisés, que ce soit les termes scientifiques, les termes historiques, les termes archéologiques, ce sont des choses tout à fait concrètes, et j'en veux pour preuve donc le temps de recherche, et notamment le temps passé sur place, pour étayer ce roman de fait crédible, absolument incontournable, et surtout vérifiable. Tout le monde peut aller vérifier les termes qui sont utilisés.
Alors bien sûr, il y a aussi un sous-marin de poche qui s'appelle le Nautilia, et c'est amusant parce qu'en vous lisant avec cette équipe soudée, où chacun a ses ambitions, chacun tire un peu la couverture à lui, tantôt les scientifiques, tantôt les militaires, mais ce qui est passionnant, c'est que ça nous rappelle des souvenirs de lecture de Jules Verne, on pense aussi à l'Odyssée du commandant Cousteau, et puis c'est aussi votre roman, un éloge aux océans, parce que vous le dites à un moment dans votre roman, Luc Mérandon, je vous cite de mémoire, hein, on connaît tous les recoins du cosmos, on se rend dans l'espace en navette, mais les océans finalement sont encore très inconnu.
Disons que le problème d'aujourd'hui, c'est que l'homme ne connaît grosso modo que 5 à 10% de la surface de la Terre, enfin de la surface
des océans.
Maritime. Tout ce qu'il y a, tout ce qui se trouve en dessous 500 mètres, c'est très inconnu pour nous. Ça relève encore de la science-fiction pour certains.
Alors, le domaine technologique, scientifique est très bien représenté dans votre roman. Moi, j'aimerais quand même, Luc Mérandon, que vous m'expliquiez ce qu'est la yoctotechnologie. Je répète pour nos auditrices et auditeurs, la yoctotechnologie, qu'est-ce donc ?
Alors, la yoctotechnologie, alors ça, je revendique la paternité de ce terme, c'est, si vous voulez, un mariage entre, bon, la technologie, tout le monde sait ce que c'est, mais yoctotechnologie, ça représente quelque chose comme à l'échelle du 9 milliardième de mètre. Donc, on est dans l'infiniment petit, hein. Donc c'est une science qui pourrait très bien, à l'image des nanotechnologies, hein, c'est quelque chose qui est encore plus petit que la nanotechnologie, si vous voulez.
Très bien, merci pour cette précision qui m'avait un petit peu dérouté.
C'est pour ça, si vous voulez, bon, le lecteur va vite se rendre compte qu'on va avoir affaire à une certaine catégorie de personnages qui ont des connaissances assez pointues dans ce domaine.
Ce qui est très réussi, c'est le mélange des époques, parce que finalement, votre roman n'est pas linéaire. Vous nous faites vivre, parfois, aux côtés de ces peuples pré-incaïques disparus. Alors, vous nous ramenez à la 222e décade du 667e règne. C'est parfois un peu compliqué. C'est vrai que cela demande aussi au lecteur d'accepter de rentrer dans un univers que vous créez et inventez de toutes pièces, en tout cas avec beaucoup de fantaisie.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est ce qu'on appelle un roman à tiroir. Hein, donc, je rappelle pour certains, le roman à tiroir, c'est en fait une succession d'histoires qui, a priori, n'auraient peut-être rien à faire ensemble, sauf qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver un point commun, et c'est ce point commun qui va les réunir. Donc, dans ce roman à tiroir, effectivement, je raconte au début, à chaque paragraphe ou un paragraphe sur deux, grosso modo, quatre histoires différentes, dont le fil rouge va justement être cette fameuse énigme des lignes de Nazca. Donc, on a parlé de Bertrand, de la famille des Prés, on a parlé des Indiens de Nazca, et vous savez, puisque vous avez lu le roman, qu'il y a aussi d'autres époques. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler plus.
Vous nous ramenez aussi à l'époque de la dictature.
Voilà, il y a d'autres époques. Donc,
il y a une Pinochet.
Pinochet, absolument. Et ces quatre époques, donc, chaque époque a ses héros, chaque époque a son histoire, chaque époque a ses rebondissements, et le challenge a été justement de faire en sorte qu'à un moment donné, ces quatre histoires qui au début prennent un peu le lecteur, je suis d'accord avec vous, un peu de cours, on se demande un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener. Le challenge a été de faire en sorte que, à un moment donné, environ, on va dire, à une petite moitié du roman, que ces quatre histoires finissent par trouver leur point commun et que là, on comprenne que finalement, tout est lié.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, Carole va faire des découvertes, Bertrand Després, lui aussi, fait des découvertes, on part, nous aussi, à la découverte de civilisations disparues, enfin, tout le monde, quelque part, sans le savoir, va participer à une quête.
Absolument. Comme je disais tout à l'heure, chaque histoire a ses héros, chaque héros a ses propres aspirations, et dans son histoire, à son époque, il va donc mener sa petite enquête, sa propre enquête sur son souci de son quotidien, notamment bon, Bertrand, ça va être le souci de solutionner, enfin d'avoir des explications sur cette roche. Donc Carole, son souci, ça va peut-être aussi être d'avoir plus ou moins ouvertement l'envie de retrouver peut-être trace de sa famille, puisque Carole, comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'interview, est une enfant adoptée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère biologique était d'origine chilienne, donc d'où peut-être cette envie d'aller continuer son cursus universitaire au Chili. Et les Indiens, eux, à l'époque, vont avoir leur problème à solutionner, et on va bien se rendre compte que tout ça va nous amener à des questions, à des réponses, à des non-réponses quelquefois, et puis surtout à des rebondissements, ce qui fait l'intérêt du roman.
Puis-je vous demander de nous parler de votre éditeur, Les Deux Encres ?
Alors, Les Deux Encres, c'est une petite maison d'édition indépendante qui se trouve à Cholet, dans le Maine-et-Loire, qui se démène beaucoup avec de petits petits moyens et qui fait en sorte de mettre en avant des auteurs débutants ou des auteurs qui ont du mal à se faire connaître. Donc c'est une maison que j'apprécie beaucoup, en tout cas.
C'était Luc Mérandon à notre micro pour présenter son roman Les Portes de Nazca, disponible aux éditions Les Deux Encres. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'actualité littéraire de Luc Mérandon, eh bien, à partir d'un moteur de recherche, vous pianotez Luc Mérandon et vous allez arriver sur le site internet de l'auteur que nous avions rencontré lors du Salon du Livre de Saint-André en Morvan en septembre dernier, où il était l'invité d'honneur. Je rappelle aussi les références de l'ouvrage de Daniel Rondeau que vous avez pu entendre au début de cette émission. Il s'agit de Malta Anina, essai disponible aux éditions Grasset. Je rappelle que Daniel Rondeau est ambassadeur de France auprès de l'UNESCO et qu'il a succédé à ce poste à Ramayad. Une petite information culturelle qui concerne Tonnerre et ses environs. Le Lions Club organise mercredi 28 novembre prochain une conférence sur le thème d'Alésia, une conférence qui sera animée par l'historien Jean-Louis Voisin, auteur d'un livre consacré à Alésia aux éditions de Bourgogne. C'est mercredi 28 novembre prochain à partir de 20h et c'est au Conservatoire de musique de Tonnerre. L'entrée est payante, c'est une entrée dont les bénéfices iront au profit des œuvres sociales du Lions Club de Tonnerre. Donc pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact par téléphone avec la librairie Plume et Images de Tonnerre ou avec des membres du Lions Club de Tonnerre. En ce qui concerne d'ailleurs la bataille d'Alésia et le livre de Jean-Louis Voisin, nous avions eu l'occasion de le présenter en compagnie de Jean-Louis Voisin dans une émission Wagon Livre du mois de septembre dernier. Pour ma part, je vous souhaite bien sûr une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 28 novembre, à partir de 21h. Nous serons en compagnie d'Alain Robert. Il s'agit d'une émission qui aura pour thème la vie des paysans bourguignons au 19e siècle, puisque Alain Robert viendra nous présenter son ouvrage paru aux éditions CPE et qui a pour titre « Au bon temps des paysans bourguignons ». C'est mercredi prochain à partir de 21h, toujours à bord de Wagon Livre et sur Radion. Merci de votre fidélité, à mercredi prochain, au revoir à toutes et à tous. Thank you.